Vous écoutez RTL.
RTL dimanche soir, le MacPol
avec Philippe Robuchon.
Le MacPol, le magazine politique de la rédaction de RTL avec Olivier Mazerolle. Bonsoir.
Bonsoir.
De toutes les têtes de liste aux élections européennes, il est le plus grand par la taille, 1m89. Mais au soir du 26 mai, il aura sans doute du mal à dominer les autres. À en croire les sondages, Yannick Jadot et sa liste Europe Écologie Les Verts ne sont pour l'instant qu'en 5e position, autour de 8% d'intention de vote. Serait-il plus haut, Yannick Jadot, s'il avait accepté les alliances que lui propose la gauche? Le sujet a été évoqué lors du grand jury aujourd'hui sur RTL. On le réécoutera, on débriefera. À propos des européennes, un nouveau rendez-vous dans ce MacPol tous les dimanches soirs jusqu'à l'élection. On va dresser un bilan de ce qu'a fait l'Union européenne depuis 5 ans. Immigration, agriculture, sociale, on fera le point dans chaque domaine. Premier thème ce soir avec Pierre Julien, la défense. Et puis une question dans ce MacPol, à quoi ça sert un porte-parole du gouvernement? Quelle qualité faut-il avoir? Sibeth Ndiaye a succédé dimanche dernier à Benjamin Griveaux. Avant elle, de nombreuses personnalités avaient occupé le poste. Marie Mollet pour RTL a recueilli les confidences d'anciens porte-parole, de droite comme de gauche, de l'art de savoir mentir, ou en tout cas de ne pas tout dire. Le MacPol, c'est parti jusqu'à 19h.
Le MacPol.
La semaine d'Olivier Mazerolle sur RTL.
Olivier, on l'évoquait tout à l'heure dans le journal, les sondages sont à peu près stables hein, cette semaine des élections européennes. La liste de La République En Marche est en tête avec 23% d'intention de vote, devant le Rassemblement National autour de 20-21%. Pour autant, Emmanuel Macron aurait tort de croire que la liste de Nathalie Loiseau va gagner. Il aurait tort de croire, Emmanuel Macron, qu'il a gagné la partie.
Ah oui, tout dépend en fait de la manière dont il va gérer la sortie du grand débat. S'il déçoit, il peut le payer d'autant plus cher qu'il a récemment affirmé que ses projets pour la France et pour l'Europe sont liés.
Bon, il va forcément décevoir. Hein. Il l'a fait comprendre d'ailleurs quand il a souligné à quel point il était impossible de répondre à 66 millions de revendications.
Ben, c'est vrai, mais il y a plusieurs façons de décevoir. Les mesures immédiatement applicables peuvent être jugées insuffisantes, mais Emmanuel Macron peut malgré tout redonner confiance s'il parvient à présenter un projet à court et long terme avec un cap et un supplément d'âme qui redonne de l'espoir aux Français. À lui de démontrer qu'il n'est pas seulement un chef d'entreprise en quête d'efficacité, mais qu'il partage cette part d'humanité présente dans le peuple dont il est le président. Les Français sont à la recherche de valeurs qui rassemblent. Une bonne politique doit aussi proposer du rêve, non pas pour tromper, mais pour donner l'envie de se mobiliser pour la réalisation d'une réussite collective. C'est ce que Emmanuel Macron n'a pas su faire jusqu'à présent.
Alors, dès demain, Édouard Philippe va dire ce que le gouvernement retient hein, du grand débat. Il y aura ensuite des débats à l'Assemblée nationale, au Sénat. On va avoir du concret dès cette semaine ?
Non, on va avoir les grandes orientations, mais le tir de barrage ministériel de ces derniers jours, notamment l'activisme de Gérald Darmanin, nous ont déjà fait savoir qu'aucune mesure ne devra mettre en péril la nécessaire réduction du déficit budgétaire et que donc toute dépense nouvelle devra être compensée par des économies. C'est un engagement qui va d'ailleurs être confirmé en Conseil des ministres mercredi avec la publication d'un document sur la trajectoire des finances publiques pour les années à venir. Autant dire qu'il ne faut pas s'attendre à un grand bond en avant pour ce qui est du pouvoir d'achat.
Alors, puisque vous parlez de lui, Gérald Darmanin, il s'est prononcé pour le report de l'âge de départ à la retraite. Emmanuel Macron pourrait annoncer ça ?
Oh bah, ce serait s'attaquer à un tabou, comme avec l'ISF et les conséquences que vous savez. S'il fait ça, il provoque une crise politique au sein de sa majorité et il saborde la possibilité de retrouver la confiance d'une majorité de Français. Il revigore les gilets jaunes. Il ouvre la voie à des européennes transformées en référendum anti-Macron, comme le souhaite Marine Le Pen. Maintenant, il a le choix, hein. C'est à lui de décider.
Olivier Mazerolle. Il y a une semaine, quasiment à la même heure, tiens, trois nouvelles personnalités entraient au gouvernement après un mini-remaniement. Amélie de Montchalin remplaçait Nathalie Loiseau aux affaires européennes. Cédric O remplaçait Mounir Majoubi au secrétariat d'État au numérique. Et Sibeth Ndiaye succédait à Benjamin Griveaux comme porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement. Un poste, par définition, très médiatique, pas simple à occuper, tellement la parole officielle doit slalomer entre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Avant Sibeth Ndiaye, des personnalités très différentes avaient fait le job, de gauche, de droite, avec chacun son style. Mais tous disent la même chose, Marie Mollet, c'est un poste très, très exposé.
Oui, car chaque mot du porte-parole engage la position officielle de la France. C'est lui qui la révèle chaque mercredi après le Conseil des ministres, seul face aux questions en rafale des journalistes. Et Stéphane Le Foll doit s'en souvenir à propos de la déchéance de nationalité, c'est le 3 février 2016.
Je vous ai répondu.
Au-delà, vous ne pouvez pas répondre en fait. On a juste une question simple.
Vous avez juste une question,
en fait,
j'ai répondu.
Et nous, on ne veut pas écrire des choses qui soient fausses ou ambiguës.
Si c'était la règle qui s'appliquait à chaque fois que vous écrivez des choses...
Aujourd'hui, la règle s'applique.
C'est cela, être porte-parole, c'est aller au combat en première ligne pour défendre le gouvernement quand certains ministres se défilent. Et Jean-François Copé en a fait l'expérience, lui qui détient le record de longévité, 5 ans sous Chirac.
Bien souvent, on est quand même très très seul dans l'arène. Hein. On avait fait la réforme des retraites, on avait 3 millions de personnes dans la rue. Hein. Bien souvent, j'étais envoyé au feu parce que les ministres en charge n'avaient pas du tout envie de s'exposer, parce qu'ils n'avaient pas envie de prendre des coups, donc le porte-parole y allait souvent à leur place. Ce que m'avait dit Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre, il m'avait dit, tu sais, les bonnes nouvelles c'est pour moi, les mauvaises c'est pour toi.
Le porte-parole doit avoir réponse à tout, aux questions techniques, aux pépites du canard enchaîné, aux bourdes d'un ministre, quitte à trouver des pirouettes. François Baroin, lui, a connu 2 présidents, Chirac et Sarkozy.
Bien sûr, c'est un poste de langue de bois, ça c'est sûr. Alors c'est très difficile de ne pas en faire, soit quand on ne sait pas, soit quand le sujet est vraiment très compliqué, soit quand on ne peut pas tout dire au moment où on nous pose la question. Il faut occuper l'espace. Le silence n'est pas possible, en fait. On peut faire, dans ce cas-là, choisir de faire des phrases plus longues, avec des mots plus compliqués, gagner du temps.
Et souvent, c'est un très proche du président, il parle pour lui, et tant pis s'il doit oublier parfois ses propres convictions.
Porte-parole, c'est vraiment... Il n'est pas kamikaze, il est sacrificiel. Donc il doit accepter par solidarité de se sacrifier pour protéger un collègue en difficulté. Donc il ne peut pas toujours dire tout ce qu'il pense, ça c'est sûr. Et à mon avis, s'il dit ce qu'il pense, il ne doit pas rester très longtemps porte-parole.
Difficile pour un porte-parole d'exister quand on doit dire les mots des autres. Jack Lang était sous Mitterrand.
Si les ministres sont très actifs, si le président est très, très présent, du coup, la fonction du porte-parole se réduit. Je pense que c'est préférable que chaque ministre puisse être lui-même l'avocat de son action et de sa mission.
Une fonction très politique à laquelle on nomme souvent des jeunes loups, un poste tremplin qui forme à l'exercice du pouvoir, apprendre à parler avant de décider.
Marie Mollet pour RTL. Olivier, vous avez entendu cette phrase de M. Baroin, un porte-parole du gouvernement qui dit ce qu'il pense, il ne peut pas rester longtemps.
Et si le nez de Madame Ndiaye s'allonge, parfois comme celui de Pinocchio, on ne pourra pas lui en vouloir. C'est le métier qui veut ça.
C'est le métier qui rentre. Il est 18h40, on va marquer une première pause dans ce MacPoll et dans un instant, on va réécouter les meilleurs moments du grand jury de Yannick Jadot, le chef de file d'Europe Écologie Les Verts, qui est candidat aux européennes, a dit pourquoi il ne voulait définitivement pas d'alliance avec la gauche.
RTL dimanche soir,
le MacPoll avec Philippe Robuchon.
L'invité du grand jury aujourd'hui sur RTL était donc Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, tête de liste aux élections européennes. Une liste qui tourne autour de 8% des intentions de vote, mais qui pourrait sans doute être bien au-delà, bien plus haut, si elle avait fait alliance avec la gauche, en particulier avec la liste Place Publique Parti Socialiste conduite par Raphaël Glucksmann. Mais non, malgré tous les appels du pied, Yannick Jadot dit non et continue de dire non. Il ne change pas d'avis. Il a longuement expliqué pourquoi à la mi-journée au grand jury. On écoute Yannick Jadot.
Ça fait des mois qu'on nous propose aux écologistes une union de façade à Paris qui n'aurait pas de cohérence au Parlement européen. Vous avez entendu comme moi Raphaël Glucksmann dire qu'il siégerait au sein du groupe socialiste au Parlement européen. Leur chef de file, c'est Frans Timmermans, l'actuel vice-président de la Commission européenne. Il s'est battu pour le glyphosate, pour tous les accords de libre-échange. Et la question, ce n'est pas le discours qu'on tient à Paris. Ça, tout le monde est aujourd'hui écologiste. Si on n'a pas la cohérence entre le discours et les actes, on est en train de tuer
politique. Vous dites qu'il n'y a pas de cohérence, mais vos électeurs veulent l'union, ils disent que vous ressemblez et vous leur dites non.
Moi, je fais un appel aux électeurs socialistes.
Les socialistes ont prouvé qu'ils pouvaient faire ça. Les accords de Paris sous François Hollande, c'était pas rien quand même.
Regardez, dans notre pays, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. Les pesticides continue d'augmenter. La France ne lutte pas contre la pollution de l'air. 67 000 morts prématurées par an, 180 par jour. Si vous voulez voter utilement pour l'écologie, il faut voter écologiste parce que c'est pas possible aujourd'hui d'avoir un tel gouffre entre les discours et les actes.
Yannick Jadot, ça veut dire que Daniel Cohn-Bendit, Pascal Durand, Pascal Canfin, qui sont des écologistes, est-ce que ce sont des traîtres à votre cause en allant rejoindre...
Ce sont des écologistes qui se sont perdus. Daniel Cohn-Bendit, il s'est entiché d'Emmanuel Macron. Il faudra m'expliquer ce qu'il a obtenu sur l'écologie ou sur les migrants. Franchement, aller rallier des mouvements politiques qui font à peu près exactement le contraire de ce qu'ils disent aux tribunes ou dans les discours, je trouve ça profondément
triste. Allons jusqu'au bout des critiques qui vous sont adressées, et encore une fois par Raphaël Glucksmann à votre place il y a quelques semaines, qui disait en fait, Yannick Jadot ne me rejoint pas parce qu'il a dans son viseur l'élection de 2022. Il s'est fait avoir en 2017 parce qu'il a rejoint Benoît Hamon.
C'est extraordinaire.
Eh bien maintenant, c'est pour ça qu'il part en solo.
On m'accuse de tous les maux. On me dit, Jadot, il a un melon gros comme ça. D'une certaine façon, ça aurait dû satisfaire mon melon. Si je devais faire un grand coup médiatique, j'aurais pris Ségolène Royal. Ça aurait eu un peu plus de gueule.
Vous lui avez dit non.
Vous
lui avez dit non, en effet.
Je lui ai dit non, parce que la cohérence. J'ai été le seul candidat à l'élection présidentielle à me retirer pour mes idées.
Quand vous additionnez vos voix et celles du Parti
socialiste, avec ça,
vous êtes à 13 ou 14%. Mais vous ne dites pas que ça fait un bon gâchis ?
Non, parce que je dis que je ne veux pas mentir aux Français. Comment ils qualifient la politique ? Pour 1 sur 2, c'est de la méfiance. Pour 1 sur 3, c'est du dégoût. Il est temps d'avoir un peu de courage politique. C'est ce que font les écologistes. Et c'est ce que ne font pas les autres. Pardonnez-moi d'avoir à le répéter.
Le Mac Paul,
Philippe Robuchon.
Benjamin Sportouche, RTL, Christophe Jacubizine, TF1 LC, Guillaume Roquette, Le Figaro. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Au grand jury, Yannick Jadot donc, a expliqué longuement pourquoi il avait refusé les alliances que lui propose notamment le Parti Socialiste, la gauche, depuis des mois. Il marche dans son couloir, il refuse d'aller à gauche, à droite. Vous a-t-il convaincu ?
Pas tout à fait, parce qu'en fait, au fond, il souffre de deux tares. Il y a un péché originel déjà, c'est de s'être allié quand même à la présidentielle, d'avoir rallié Benoît Hamon, de s'être désisté au premier tour en sa faveur. Et donc du coup, ça le marque quand même à la gauche du Parti Socialiste, à la gauche de la gauche. Et maintenant, il explique que... il ne veut pas s'allier avec eux, avec Glucksmann. Et puis, il souffre aussi de la tare générale des écolos qui font que, au final, un écolo ira toujours à la soupe. Donc, il a beau proclamer son indépendance, au fond, à un moment donné, il va rentrer dans un gouvernement. C'était le cas de Nicolas Hulot. C'est aujourd'hui Pascal Canfin qui va avec Loiseau. Ça a été Cécile Duflot. Ils ont tous dit qu'ils étaient libres et indépendants. Et ils finissent toujours par aller à la soupe. Et ça, c'est un problème des écolos français.
En fait, Louis, le paradoxe, c'est qu'au moment où il répond... il a des arguments. Quand il dit, par exemple, moi, je ne peux pas suivre En Marche parce que Emmanuel Macron fait des promesses pour l'Europe et prend des engagements, mais il ne les applique pas en France. Et puis après, on se dit, mais de toute façon, effectivement, il y a un moment où le pragmatisme devra reprendre le dessus. D'ailleurs, il dit, je ne peux pas m'allier avec Place Publique parce qu'on ne serait pas dans le même groupe politique au Parlement européen. On ne voterait pas pour les mêmes gens. Mmh. Et puis après, il dit, oui, mais en fait, peut-être qu'on peut s'allier avec d'autres gens pour faire avancer
les idées. Y compris le PPE, y compris soutenir Barnier s'il est candidat à la
première
commission.
C'est que la vérité, c'est que les deux positions peuvent se défendre et qu'en fait, c'est une question d'opportunité. Aujourd'hui, il trouve plus opportun d'être tout seul. En plus, parce que comme lui a un peu méchamment reproché Glucksmann sur le même plateau du grand jury il y a 15 jours, ben, il a envie un peu de prendre date pour 2022. Donc, il n'est jamais complètement convaincant.
Benjamin.
C'est compliqué pour lui de dire « j'ai essaimé partout aussi dans le monde politique ». C'est vrai que tout le monde aujourd'hui s'intéresse à l'écologie et c'est vrai que lui, il l'a incarné dès le début. Mais en disant en même temps « oui, mais c'est moi qui en suis le meilleur porte-parole tout seul dans mon coin ». Comment les Français peuvent le comprendre alors que les écologistes ont fait progresser la gauche sur cette voie-là? C'est vrai, pas la gauche plurielle, puis après sous François Hollande. On imagine bien que le traité de Paris ne s'est pas fait comme ça d'un coup d'un seul et que les écologistes ont été à la manœuvre aussi en 2015. Donc c'est là où on ne comprend pas pourquoi il y a eu à un moment donné une gauche plurielle, que les écologistes ont trouvé des vertus dans l'Alliance et qu'aujourd'hui, elle a tous les défauts du monde. Un peu incompréhensible. Bah,
c'est compréhensible au sens où il a très bien compris, Yannick Jadot, qu'aujourd'hui, le potentiel électoral, il est plus au centre droit qu'à gauche.
Si ce n'est stratégie politique.
Voilà, ce que je veux dire. C'est dommage parce que là, on n'arrête pas de le. Parce que c'est quand même quelqu'un d'éminemment sympathique, d'intelligent et en plus qui défend des belles causes. Des causes auxquelles les Français sont sensibles. Donc ce qui est rageant, c'est effectivement, c'est que politiquement, il n'arrive pas à nous convaincre alors qu'il a tous les dossiers de fond où il devrait pouvoir nous convaincre.
Alors, cette espèce de confusion, elle est peut-être aussi un calcul de moyen terme. Probablement qu'Yannick Jadot regarde ce qui se passe en Allemagne, où les écologistes sont très forts dans les intentions de vote et dans les votes d'ailleurs dans les élections, y compris les élections à l'intérieur de chaque lande. Et ça a été au prix d'un abandon par l'écologie de la dimension gauchisante, on va dire. Et Yannick Jadot aussi, il pense à ça. Il se dit, en n'étant pas trop associé aux socialistes, je montre qu'il peut y avoir une écologie qui ne soit pas comme les pastèques, c'est-à-dire verte à l'extérieur et rouge à l'intérieur.
Mais ça prendra du temps.
Il y a un coup à jouer, selon lui, sur, sur cette voie-là.
Je pense qu'il y a un créneau, oui, parce qu'on voit bien d'ailleurs, quand on dit aux Français, est-ce que l'écologie vous préoccupe ? Ils répondent oui, massivement. Mais ça ne se transforme pas encore en vote, parce qu'il est à moins de 10% dans les intentions, il est loin
8%
derrière.
Dans le sondage dont on a parlé tout à l'heure.
Dernier sondage. Et donc, peut-être qu'une des raisons de ce manque de transformation, c'est parce que j'en dis, oui, mais les écologistes, ils ont d'autres choses dans leur programme que l'écologie proprement dite.
C'est toute la question éternelle dans notre pays. Est-ce qu'il y a une place pour l'écologie politique? Et ça, franchement, je ne suis pas sûr qu'il ait lui-même la réponse.
Merci Benjamin Sportouche, RTL. Merci Guillaume Roquette, Le Figaro. Merci Christophe Jacubizine, TF1, LCI. Olivier Mazerolle, vous avez vous aussi écouté le grand jury de Yannick Jadot? Oui. Vous avez été convaincu?
En tout cas, je ne suis pas convaincu par le scepticisme de mes petits camarades.
De vos confrères.
Je les trouve un peu sévères, tout simplement parce que d'abord, Yannick Jadot est quelqu'un qui défend les mêmes convictions depuis des années et des années. Il n'a pas virevolté d'un camp à un autre. Il n'est peut-être pas suffisamment politicien. Bon, bah, écoutez, est-ce que c'est franchement un grave défaut? Quand il dit qu'il préfère être dans un groupe au Parlement européen à partir duquel il peut défendre publiquement des prises de position et parfois faire peser ses convictions pour obtenir d'autres groupes qu'ils se joignent aux siens pour prendre des décisions, comme par exemple sur l'interdiction de la pêche électrique, bah, ça se défend plutôt que de se retrouver noyé dans un groupe peut-être plus important, mais dans lequel il serait lui-même minoritaire et peut-être obligé de voter pour des convictions qu'il ne partage pas. Donc je ne vois pas pourquoi effectivement il se plierait à la discipline politicienne ambiante et qu'on a l'habitude de pratiquer. Et puis, enfin... Et ça, Christophe Jacubizine le dit, il est effectivement sympathique, c'est-à-dire qu'il défend des convictions qui sont tout à fait estimables. Et même quand on est en désaccord avec lui, il nous oblige à réfléchir. Bah, écoutez, avoir un candidat qui est sincère, qui oblige à réfléchir, bon, bah, écoutez, moi j'aimerais que ça soit toujours le cas les élections.
Et vous avez entendu ce qu'a dit Jadot à propos de Cohn-Bendit, qu'enfin un autre, il dit c'est pas des traîtres, ils se sont perdus dans lui.
Oui, bon, bah, écoutez, effectivement, j'en sais rien, s'ils se sont perdus, peut-être espèrent-ils donner une place plus importante à l'écologie dans le groupe Macron, dont on ne sait pas d'ailleurs à qui il va s'associer une fois qu'il sera élu au Parlement européen, peut-être aux libéraux, qui n'ont pas pour l'écologie, disons, une passion débordante.
Alors, comme promis, un nouveau rendez-vous dans ce MacPoll tous les dimanches soirs jusqu'aux élections européennes, donc du 26 mai. On va, en essayant d'être le plus concret, le plus objectif possible, dresser un bilan de ce qu'a fait l'Union européenne depuis 5 ans. Et même si les Français n'attendent pas grand-chose de l'Europe, hein, c'est un sondage pour Le Figaro qui le disait cette semaine, on va essayer de voir pour les 5 prochaines années quelles sont les priorités des candidats français. Alors, d'ici 26 mai, on va aborder donc les thèmes principaux, l'agriculture, l'environnement, l'immigration, le social. Ce soir, on commence par les questions liées à la défense. Bonsoir Pierre-Julien.
Bonsoir Philippe.
Depuis la dernière élection en 2014, qu'a fait concrètement l'Union européenne en matière de défense?
Bon, rappelez-vous, au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, François Hollande en a appelé à l'article 42.7 du traité de Lisbonne la clause de défense mutuelle si l'un des 28 est l'objet d'une agression armée sur son territoire. Eh bien, les Européens ont alors apporté leur soutien à la France, pas à la hauteur tout à fait espérée, avons-le. Ce sera surtout du matériel, frégate allemande envoyée au large de la Syrie, aux côtés du Charles de Gaulle, appui d'avions de reconnaissance contre Daesh, mais aussi quelques hélicoptères néerlandais, des formateurs supplémentaires au Mali. En revanche, les services de renseignement vont travailler encore plus étroitement. Sur un autre plan, retenons l'idée lancée par la Commission européenne du 30 novembre 2016, chère à Emmanuel Macron, c'est l'initiative européenne d'intervention, une sorte d'état-major militaire qui aura pour tâche de fixer les objectifs stratégiques. 10 pays ont déjà souscrit en fonction des velléités possibles de la Russie, de la Chine, et alors que les États-Unis de Donald Trump parlent de désengagement en Europe. Et ajoutons le nouveau fonds européen de la défense, 13 milliards d'euros pour la période 2021-2027, alloués à la recherche, au développement, à la production en coopération, par exemple de l'Eurodrone ou du système d'avions de combat du futur, le SCAF, qui regroupe Français, Allemands et désormais l'Espagne.
Alors Pierre, des programmes de défense concrètement ont été lancés en commun ?
Oui, hein, l'Europe se dote de son propre système de géolocalisation, Galileo, le GPS est en effet entièrement aux mains des Américains. Or, il faut parfois même se méfier de son allié, on l'a compris avec la guerre de W. Bush en Irak en 2003. Il faut aussi saluer la réussite du groupement européen du transport aérien à Eindhoven, aux Pays-Bas. Des appareils espagnols, belges renforcent par exemple la logistique française au Sahel depuis 5 ans. Retenons aussi la mission Atalante contre la piraterie, prolongée jusqu'en 2020. Et puis Sophia, le sauvetage des migrants en Méditerranée, mais elle vient de s'arrêter prématurément en raison des différends politiques.
Oui, ça prouve que l'Europe de la défense reste fragile. D'ailleurs, tiens, la fameuse armée européenne dont on nous parle depuis des années, elle n'existe toujours pas.
Bah, les États veulent garder leurs militaires, disons, sous leur drapeau. Il est vrai qu'ils n'obéissent toujours pas aux mêmes règles d'engagement, ils ne parlent pas la même langue, ils disposent de matériel totalement différent. Et en plus, il y a ceux qui préfèrent encore acheter américain, autant oblige. Ainsi, le chasseur F-35 de Lockheed Martin, véritable aspirateur des budgets de défense en Europe, Belgique, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, comme le souhaitait d'ailleurs Washington.
Alors Pierre, quelques avancées, quelques échecs, c'est ce qu'on retient. La défense européenne, c'est un peu les montagnes russes. Pour les 5 ans qui viennent maintenant, que proposent les principaux partis français ?
Bah, on s'en doute, hein, La République En Marche veut une Europe de la défense plus présente, plus réactive, avec comme clé de voûte la relation franco-allemande. Les Républicains souhaitent approfondir les coopérations tout en privilégiant les accords bilatéraux. Pour le Rassemblement National, l'Europe ne doit pas diluer la souveraineté d'un État. Chez Nicolas Dupont-Aignan, une armée européenne ferait passer l'armée française sous la coupe de Bruxelles et de Berlin. Les écologistes Les Verts prônent un corps d'armée dédié en priorité à l'humanité. Et les insoumis de Jean-Luc Mélenchon soutiennent que l'Europe de la défense, c'est l'Europe de la guerre. Enfin, pour l'autre gauche, Hamon, PS et Place Publique, qui, oui, à l'Europe de la défense, à travers, disons, une industrie commune, une coopération antiterroriste et des moyens cyber et de renseignement renforcés.
Merci Pierre-Julien, spécialiste des questions militaires à RTL. Commentaire, Olivier. J'ai vu que Florence Parly, notre ministre des Armées, dit « La défense, c'est l'un des domaines où on a le plus avancé en Europe ces 5 dernières années ».
Oui, mais Pierre a parfaitement expliqué ce qui se passait dans le domaine de la coopération industrielle et puis aussi pour quelques actions coordonnées, c'est vrai. Mais l'armée européenne, pour le moment, c'est une utopie, pour différentes raisons. D'ailleurs, je me permets de vous indiquer que la France est une puissance économique, mais qu'elle n'est pas respectée sur le plan économique dans le monde, parce qu'elle n'est pas capable de faire preuve de sérieux dans ce domaine, en raison de finances qui sont un petit peu déséquilibrées, disons. En revanche, la France est une puissance politique. Et pour être une puissance politique, il faut avoir une bonne diplomatie, c'est le cas, et une défense, une bonne défense, respectée, c'est le cas également. Et puis, vous vous souvenez sans doute que la France dispose de l'arme nucléaire et que, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas du tout l'intention de partager avec d'autres la prise de décision de s'en servir ou pas.
Olivier, merci. À 18h57, on va égrener quelques actualités politiques de la semaine qui vient. On va s'intéresser, Olivier, à ce qui va se passer mardi en Israël, puisque ce sera, il y aura des élections législatives anticipées là-bas.
Oui, alors, il est probable que la liste centriste emmenée par un ancien général, chef d'état-major de l'armée israélienne, va être la première, mais elle n'aura pas la majorité. Et pour former la majorité, M. Netanyahou est bien mieux placé, parce qu'il va racoler avec lui tous les partis d'extrême droite pour former une majorité, ce qui veut dire que Israël va accentuer sa politique d'annexion de la Cisjordanie.
Oui, il y a d'ailleurs eu des propos de Benjamin Netanyahou aujourd'hui très clairs sur ce sujet. D'ailleurs, tiens, si l'emportait Bibi Netanyahou, eh bien, il deviendrait le premier ministre le plus durable de toute l'histoire d'Israël. Son mandat dépasserait en durée celui de David Ben-Gourion qui avait créé le pays en 1948.
On peut pas comparer les deux quand même.
On peut pas comparer les deux, mais enfin, là, 5 mandats, ça fait beaucoup.
C'est pas tout à fait le même genre de personne.
Mercredi, Olivier, autre chose auquel il faut s'intéresser, évidemment, Bruxelles, un nouveau Conseil européen avec en toile de fond, et évidemment, toujours le Brexit.
Bon, alors écoutez, là, c'est comme Diogène avec sa lanterne, ça, on n'y comprend rien, on n'y voit rien. Voilà, donc peut-être aurons-nous finalement des députés britanniques élus pour le prochain Parlement européen dans lequel ils ne siégeront jamais, au point où on en est.
Bonjour la logique. Bonjour la logique. Merci Olivier, c'est la fin de ce MacPoll à 18h58. Dans un instant, les titres de l'actualité à 19h. Puis juste après, les dessous de l'écran, l'émission média de RTL, on va s'intéresser à un genre qu'on croyait réservé à l'Amérique du Sud, les telenovelas. Ces histoires d'amour un peu kitsch, eh bien figurez-vous qu'elles séduisent de plus en plus de téléspectateurs français, téléspectatrices surtout. Et puis dans Autoradio avec Christophe Bourreau, on va évoquer une question qui revient régulièrement dans l'actualité. Doit-on rendre obligatoire des contrôles médicaux des examens de code ou de conduite pour les personnes âgées qui prennent toujours le volant ? À tout de suite.
Vous écoutez RTL.